à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Antoine d'Aragon, bonjour et merci d'être venu pour ce quatrième entretien où nous parlons du Soudan, parce que c'est un conflit très dur, dans lequel il y a énormément de souffrance des populations au nord, bien sûr, enfin dans ce qu'on appelle le Soudan, mais aussi depuis 2011 dans le Soudan du Sud. Et donc, on était resté la semaine dernière sur un peu une compréhension, un état de l'art de la situation du Soudan du Sud. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui se passe au Soudan du Sud. Je rappelle en deux chiffres les réalités. C'est une population majoritairement, 60% environ, de chrétiens, ce qui n'est pas le cas, ce qui est l'inverse au nord, même plus que l'inverse, puisqu'il y a 80% de musulmans dans le Soudan, et qui a connu son indépendance en 2011, donc il y a moins de 15 ans, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de conflits territoriaux aux frontières avec le Kenya, aux frontières avec le Soudan, etc. Et ce pays de Soudan du Sud est considéré par l'ONU comme le pays le plus pauvre de la planète, c'est-à-dire qu'il y a une misère terrible, alors même, c'est ce que vous nous expliquiez et nous en étions restés là, que il y a de nombreuses richesses, autant agricoles, potentiellement agricoles, parce que c'est un pays où il y a beaucoup d'eau et où il y a des zones de montagne, d'altitude, donc c'est pas du tout un pays désertique. Et c'est un pays qui détient 85% des réserves de pétrole de l'ensemble, Soudan, Nord et Sud compris. Avec donc une difficulté, c'est que le Soudan n'a aucun débouché maritime, donc aucune possibilité d'exporter notamment son pétrole de façon autonome. Donc on en était resté là. Qu'est-ce que on peut penser de cette situation paradoxale où on est vraiment sur un des pays les plus pauvres de la planète, alors que potentiellement il y a une richesse considérable?
Je reprends quelques mots. Ces 12 millions d'habitants, dont deux tiers ou trois quarts, qui vivent en situation d'insécurité alimentaire. Mais c'est également beaucoup de gens qui sont partis à l'extérieur du pays, poussés par les faillites, mais surtout poussés par la guerre et les actes de violence. Alors, le Soudan a des voisins, et notamment l'un de ses voisins les plus importants au sud, c'est l'Ouganda. Alors, ça nous paraît loin, mais pour l'Ouganda, le Soudan du Sud est extrêmement important. C'est 20% de ses exportations. Simplement, pour exporter, il faut que la personne en face ait de quoi acheter. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que la première source de devises du pays vient du pétrole, que ce pétrole est acheminé du Soudan du Sud jusqu'à Port-Soudan par deux oléoducs.
Donc, Port-Soudan étant la capitale administrative aujourd'hui du Soudan.
Alors, donc, Port-Soudan, la capitale du Soudan, c'est Khartoum, mais le gouvernement officiel, entre guillemets, a déplacé ses pénates à Port-Soudan, c'est une espèce de Vichy du coin, si vous voulez, tout simplement parce que Khartoum est aujourd'hui occupé par les milices dissidentes de Hemeti. Mais sont d'ailleurs en train d'être depuis un mois, c'est-à-dire depuis la fin octobre, il y a quand même une attaque assez forte de l'armée régulière
et pour récupérer
qui a repris un certain nombre de points stratégiques de la ville. Mais enfin, c'est pas l'objet de notre discussion. Alors donc, depuis six mois, depuis le mois d'avril, il y a quasiment, avril 24, il n'y a quasiment plus d'exportation de pétrole. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que à la mi-septembre, donc il y a, à l'heure où je vous parle, il y a un peu moins d'un mois, le président El Bourhan, donc le président officiel du Soudan du Nord, s'est rendu à Juba et décision a été prise de reprendre les exportations de pétrole qui qui était donc, comme je vous le disais, suspendu depuis des mois. Alors donc, espérance et la réouverture aux exportations, donc la possibilité de recevoir à nouveau des devises qui permettront peut-être de relancer l'économie d'un pays. Alors, je voudrais insister sur une chose. Au Soudan du Sud, il y a 200 kilomètres de routes goudronnées.
Pour 12 millions d'habitants.
Pour un pays qui fait 660 000 kilomètres carrés. 200 kilomètres de routes goudronnées, c'est moins que ce qu'on trouve dans un canton français. C'est rien. On n'imagine pas combien d'années-lumière le Soudan du Sud se trouve de nos pays. Et ceci explique d'ailleurs le fait qu'il y ait autant de gens aussi malheureux qui courent autant de risques pour traverser les déserts et la mer afin d'atterrir dans des conditions abominables chez nous. Et l'explication, elle est quand même là, c'est-à-dire la désespérance totale. Donc, on va relancer les exportations de pétrole, ce qui est une bonne chose. Alors, dans la mesure où tout ça n'est pas compromis par la guerre qui se passe au nord. Mais Al-Burhan a été ferme, on rouvre le pétrole. Alors, Al-Burhan en a besoin, parce que le Soudan du Nord a peu de pétrole. Par contre, il y a des droits de passage, un péage absolument phénoménal, et quand un baril de pétrole part du Sud-Soudan, traverse le nord pour arriver à Port-Soudan, il est évident que le gouvernement soudanais fait une ponction tout à fait considérable. Donc pour eux, c'est un apport de devises dont il a besoin. Alors en même temps, c'est un mot que j'aime pas, mais
il n'a pas bonne presse depuis quelques temps.
Parallèlement, il y a quelques semaines ou quelques mois, enfin il n'y a pas très longtemps, l'un des hauts responsables du CNPC, je vais essayer de traduire, à mon avis, ça doit être comme chose comme Chinese National Petroleum Corporation, et qui détient 41% de la plus grosse société de production pétrolière du Sud.
Donc c'est les Chinois qui ont investi sur le pétrole du Soudan du Sud.
Proposent d'établir, de mettre en place un oléoduc qui déboucherait à Djibouti, puisque vous
en
savez,
court-circuitant donc la traversée du Soudan.
En court-circuitant. Puisque vous savez que le Djibouti, où on régnait, nous Français, encore en maître il y a peu de temps, est aujourd'hui âprement discuté par les Chinois, qui ont installé des Chinois, entre autres, et des terminaux, etc.
Oui, Djibouti qui contrôle le détroit qui donne accès à la mer Rouge.
C'est en dessous du Bab el-Mendab.
C'est sûr que c'est un point de passage obligatoire pour accéder au canal de Suez, notamment.
Alors, Djibouti étant au sud, les Chinois pourront donc, sans du tout passer par le canal de Suez, par la mer Rouge, puisque c'est en dessous, les Chinois pourront pomper du pétrole soudanais et l'exporter en Chine.
Mais en même temps, il y a cette fonction un peu de contrôle, sachant qu'il y a le Yémen juste en face, de l'autre côté, à quelques jets de pierre.
Aden n'est pas très loin.
Oui, et voilà, on les voit à l'œil nu. Hein, il y a là un point sensible aussi de contrôle de Djibouti. C'est d'ailleurs pour ça que la France a essayé d'y rester autant qu'elle a pu, pour contrôler quand même une partie du commerce mondial vers l'Europe. C'est un point de passage qu'on on contrôle les Chinois, qui évidemment les arrange là à court terme parce qu'ils vont pouvoir exporter du pétrole vers la Chine directement, mais sous réserve que les outils, c'est-à-dire le Yémen, les laissent passer, parce qu'ils sont juste là et ils sont très dangereux. Donc c'est quand même stratégiquement, c'est un point nodal.
Oui, alors enfin les outils sévissent plutôt au nord du
Yémen,
du Bab el-Mendab, et vous les trouvez à notamment le grand port qui est contrôlé par les Houthis, c'est Hudaydah.
Oui, mais enfin, bon, tout le golfe d'Aden, ce qu'on appelle le golfe d'Aden, là, qui est une des capitales, on peut dire, du Yémen, est un point crucial pour le commerce
toute
mondial.
Toute cette région est parfaitement stratégique. Ah, ouais. Mais il est sûr que pour les Soudanais du Sud, le fait de pouvoir vendre leur pétrole sans passer par le Soudan du Nord est extrêmement intéressant. Ça l'est moins pour les Soudanais du Nord, qui donc ponctionnaient des royalties importantes pour le transit.
Parce que, effectivement, la situation de pauvreté, de misère du Soudan du Sud, alors qu'ils ont tous pétrole, est en partie liée au fait que pour exporter leur pétrole, ils doivent passer par le Soudan du Nord, entre guillemets. Et que donc ils se font racketter en quelque sorte, enfin ils paient des droits de péage exorbitants, et donc ça les appauvrit encore, ça les maintient dans la pauvreté. Ils ont envisagé il y a quelques années de construire un oléoduc en traversant le Kenya pour aller directement sur l'océan Indien. Je crois que d'abord le trajet est très très long, avec le Kenya les relations sont pas forcément au beau fixe.
Pas de bonnes relations avec le Kenya. Les relations sont plutôt bonnes.
Et donc, est-ce qu'ils peuvent, vous pensez, grâce à l'aide de la Chine, sortir de leur situation de pauvreté extrême ?
Ouais, je pense que la première chose pour qu'ils sortent d'une situation de pauvreté, c'est qu'ils commencent par s'entendre entre eux et qu'ils arrêtent de se faire la guerre. Alors,
il y a une guerre civile à l'intérieur.
Depuis quelques années, les relations se sont quand même... calmé entre Salva Kiir et Riek Machar, mais les élections qui devaient avoir lieu à la fin de l'année ont été reportées, et apparemment, elles seraient reportées en décembre 26.
Il faut savoir pour nos auditeurs que le Soudan du Sud, qui compte à peu près 12 millions d'habitants, qui est un très vaste pays, mais très peu structuré, organisé, est en fait, en réalité, une fédération de 10 États.
Oui.
Et chacun des États correspond plus ou moins à une ethnie. Donc, il y a en fait des conflits ethniques à l'intérieur, extrêmement puissants et extrêmement difficiles à stabiliser. C'est ça que vous nous dites.
C'est exactement comme ça. Ce que vous dites, je pense que celui qui veut être calife à la place du calife, entre guillemets, chacun cherche à exploiter les rivalités ethniques.
Bien, Monsieur d'Aragon, merci pour toutes ces précisions sur le Soudan. On finit là nos entretiens pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans cette zone. Malheureusement, on ne finit pas complètement sur une note d'espoir, parce qu'on sent bien que c'est une situation qui n'est pas encore stabilisée et dans laquelle il y a potentiellement des zones d'espérance avec une richesse économique qui est là, présente, et qui pourrait permettre à ces pays de s'en sortir, mais également tout un tas de rivalités, de conflits de personnes, de conflits ethniques qui font que ça hypothèque complètement le développement. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, Monsieur d'Aragon.